Ne ratez plus rien.
Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca.
Alors, on sait que certains gènes haussent considérablement le risque de cancer de la prostate, en particulier les formes les plus agressives de la maladie. Et une recherche récente confirme que ce risque plus élevé peut être grandement atténué par l'adoption de bonnes habitudes de vie. Alors, ça touche quand même potentiellement la moitié de la population. On en discute avec Dr. Richard Béliveau, qui est biochimiste et chroniqueur au Journal de Montréal. Dr. Béliveau, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'abord, ce risque-là, ça se quantifie comment dans un premier temps?
Bon, ben, je pense que vous avez bien résumé. Je pense qu'il faut voir les maladies chroniques, dont le cancer, comme une interaction entre notre génétique, ce que vos parents vous ont légué comme gène, l'hérédité, et ce qu'on appelle l'épigénétique, votre mode de vie. Votre mode de vie module l'expression des gènes. La génétique prédispose, votre mode de vie dispose. Alors, la génétique est une prédisposition à développer une maladie. Et ce que la recherche a montré depuis les 30 dernières années, c'est que pour les maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer, le cancer, le diabète de type 2, le mode de vie a une influence déterminante sur la modulation de l'expression de ces gènes-là. Et il y a une grande étude, très grande étude, qui vient d'être publiée dans une revue européenne d'urologie, faite avec 12 000 hommes suivis pendant 30 ans.
Okay.
Et on a pris ces hommes-là et on a fait ce qu'on appelle en biochimie du génotypage. On a regardé tous les gènes associés au cancer de la prostate chez ces hommes-là. Et on a identifié les plus mauvais pronostics, ceux qui avaient une probabilité de développer un cancer très, très, très élevé. Alors, quand on fait cela, on s'aperçoit que l'augmentation du risque de cancer de la prostate chez ces hommes-là est environ 4 à 5 fois plus élevée que la moyenne des hommes.
Oh.
Mais la surprise de l'étude, c'est que dans la même étude, on a pu montrer que l'adoption d'une hygiène de vie adéquate, ça veut dire maintien d'un poids corporel normal, avec ça, ça veut dire une IMC en 21 et 23, activité physique régulière, alimentation riche en végétaux et absence de tabac, réduisait de façon spectaculaire la probabilité que ces hommes-là, avec une mauvaise génétique, La probabilité qu'ils développent des cancers de la prostate revenait pratiquement à celui des hommes qui avaient une bonne génétique. Donc, le mode de vie est capable de renverser en bonne partie le mauvais pronostic que les gènes semblent vous donner. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle de voir, plutôt que de penser que le cancer est une espèce de destin contre lequel on ne peut pas rien faire, montrer dans des études comme ça que l'adoption de comportements très simples peut réduire de façon importante votre probabilité de développer un cancer.
Mais c'est ça qui est intéressant à vous demander parce que, mettons, par exemple, que ce soit un infarctus ou le cancer du poumon, par exemple, ou mettons même le cancer du côlon, ça, on sait, on connaît les facteurs, en tout cas, qui sont liés à ça, puis évidemment, il y a un lien de cause à effet bien établi. Évidemment, le cancer du poumon, c'est le tabagisme dans l'immense majorité des cas. Mais c'est ça que dans d'autres types de cancers, on a l'impression que c'est une malchance, puis c'est un billet de loto qu'on a presque tiré à notre naissance, puis ça va arriver comme ça. Comme la prostate, par exemple, tu sais, on connaît pas très bien les causes. Vous, sans doute pas mieux que moi, mais moi, je les connais pas les causes, puis on a l'impression, ça va peut-être arriver, peut-être pas, puis qu'on a rien à faire, mais c'est pas partout ça.
Exact. Ben, vous résumez très bien, vous avez très bien compris. En fait, il y a des études qui ont montré, on est tous porteurs de cancer. À la sortie de l'adolescence, le nombre de fois que nos cellules se sont divisées fait qu'on a tous des micro-tumeurs dormantes dans différents tissus.
Okay.
Et si on compare, par exemple, les Occidentaux avec les Japonais, ils ont le même niveau de micro-tumeurs dormantes dans leur prostate. Or, les Japonais font 10 fois moins de cancers de la prostate que les Occidentaux. Et ça, c'était des données qui montraient dès il y a une vingtaine d'années que l'hygiène de vie avec des micro-tumeurs qui étaient présentes en quantité équivalente jouait un rôle déterminant parce que les Japonais en font 10 fois moins que les Occidentaux. Donc, la majorité des pour le cancer de la prostate, il y a une transmission héréditaire, une augmentation du risque, mais l'hygiène de vie joue un rôle déterminant. Et l'autre proportion, c'est le hasard. Comme vous le dites, la majorité des mutations qui apparaissent chez l'humain sont dus au hasard. On peut pas jouer sur la nature des mutations qui vont vous frapper. Vous pouvez pas jouer sur votre hérédité, mais vous pouvez prendre des mesures concrètes pour réduire votre probabilité de développer un cancer. Ce sont ces quatre mesures-là. Un poids santé, activité physique, alimentation riche en végétaux, absence de tabac. Je vous signale, j'aimerais peut-être ajouter là-dessus que le cancer de la prostate, c'est pas négligeable parce que les données ne sont pas belles. Avec l'augmentation de l'obésité et l'augmentation de la sédentarité chez les jeunes, ce qu'on a observé de façon épouvantable dans les 20 dernières années, c'est une augmentation de l'ordre de 300% du cancer de la prostate chez les jeunes.
Chez les jeunes, 300%, ouais. Donc ça a quadruplé?
Oui, c'est une augmentation absolument hallucinante. Et on attribue cela en bonne partie à l'augmentation hallucinante de l'obésité chez les jeunes et de la sédentarité chez les jeunes. Alors, le cancer de la prostate, comme le cancer du côlon, que vous avez mentionné comme exemple, c'est un excellent exemple, ce sont deux cancers qui sont fortement modulés par la surcharge de poids. Chez les patients qui ont des cancers de la prostate, on assiste malheureusement à une augmentation fulgurante de la mortalité après les traitements chez ceux qui sont restés obèses post-traitement. Alors, le surpoids pour le cancer de la prostate, c'est un problème majeur et ça devrait être un encouragement de plus pour les hommes là, de faire attention à leur poids corporel.
Par exemple, bon, on parle des populations japonaises. Le Japon, c'est un pays où les gens sont généralement beaucoup plus minces qu'ici, mangent tendance plus de poissons. Par contre, forte proportion de fumeurs, ceci dit, et qu'est-ce qui est plus important dans ces facteurs-là? Par exemple, c'est-tu l'alimentation, l'obésité là, pour le cancer de la prostate?
En fait, pour le cancer de la prostate, en termes de comportement, je pense que l'obésité rattrape le tabagisme.
Ah oui.
Les données de l'OMS, les données du CDC, du Center for Disease Control des États-Unis disaient que l'obésité serait au 21e siècle ce que le tabac était au 20e. Il reste que, je vous rappelle dans le pic du tabagisme, on avait 50% de la population qui fume. Là, on est rendu autour de 18%. Donc, on a les campagnes anti-tabac ont commencé à porter fruit. Je pense que si vous fumez et que si vous êtes gras, je pense que le plus important, c'est de commencer par un des deux que vous pensez être en mesure d'attaquer. Est-ce que c'est votre surcharge de poids ou est-ce que c'est votre tabagiste? Il y a des façons de se faire aider. Il y a des outils en thérapie, en comportement. Il y a des psychologues qui peuvent vous aider. Il y a des médicaments qui peuvent vous aider. Mais je pense qu'il faut en parler. Le fait qu'on fume ou qu'on soit en surcharge de poids, c'est un problème de santé majeur. Et vous le savez, notre système de santé, il est à bout. Je pense qu'on n'a pas intérêt à tomber malade. Là. La pandémie de COVID n'est pas terminée. Alors, tout ce qu'on peut faire pour prendre soin de sa santé comme un individu, je pense que c'est une façon extraordinaire d'aider, de vous aider vous-même et d'aider le système de santé à s'en tirer pour les prochaines années. Parce qu'avec le vieillissement de la population, ces deux problèmes-là, tabac et obésité, sédentarité, vont avoir un impact majeur sur l'explosion, non pas juste des cancers et des maladies cardiovasculaires, mais du diabète de type 2 et de l'Alzheimer. L'Alzheimer est directement associé à la consommation au surpoids également, à l'hypertension, au problème de cholestérol. Donc, c'est pas quand vous êtes mince et que vous ne fumez pas et que vous êtes actif et que vous mangez beaucoup de végétaux, vous vous aidez, vous procrastinez, vous poussez dans le temps l'âge à laquelle, non seulement vous allez décéder, mais l'âge à laquelle vous allez commencer à développer des maladies chroniques. L'important, c'est pas, on vise pas personne, on vise pas à devenir éternel, là, on vise pas l'immortalité, on vise juste à éviter de se gâcher des belles années de sa vie où on pourrait avoir des activités qui nous plaisent plutôt que d'être hospitalisé avec des problèmes de santé majeurs qui vont gâcher votre qualité de vie.
Ouais, c'est ça, c'est pas juste ajouter des années à notre vie, mais ajouter de la vie à nos années aussi, comme on dit. Docteur Béliveau, vous regardez aussi beaucoup, vous intéressez beaucoup à l'alimentation, la viande. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on en mange encore à tous les jours quand même? Est-ce qu'on essaie d'en manger juste une ou deux fois par semaine? C'est quoi un bon dosage selon vous?
Le bon dosage des, c'est pas selon moi, mais selon les agences de santé publique, là, le World Cancer Research Fund puis l'American Cancer Institute, American Institute for Cancer Research, les recommandations, c'est surtout pour les charcuteries. Hein. Ce qu'il faut, il y a viande rouge et charcuterie, mais l'ennemi numéro un, c'est vraiment les charcuteries industrielles, le bellonné puis les saucisses à dogs, qui est pas les charcuteries de votre boucher, là, mais les charcuteries hyper transformées. Okay. Qui sont bourrés de nitrites et d'agents de préservation. Mmh. Ça, c'est associé, entre autres, à une augmentation spectaculaire du risque de cancer colorectal. Et là-dessus, les données sont très, très claires.
Okay.
La recommandation du Fonds mondial de recherche sur le cancer, c'est de réduire au maximum la consommation de charcuterie. Certaines agences vont jusqu'à dire de les éliminer complètement de votre alimentation. Pas grave de manger un salami de temps en temps, mais il y a des gens qui mangent des sandwichs au bellonné tous les jours. Faut pas oublier ça. Ça, c'est un comportement qui a des conséquences. Et l'autre chose, mais pour la viande rouge, les recommandations du Fonds mondial, c'est autour de 500 grammes par semaine. Donc, c'est pas de bannir la viande rouge. C'est juste que la majorité de votre assiette, quand vous consommez, devrait être constituée de produits d'origine végétale. Ça veut dire pas juste des fruits et des légumes. Quand on dit végétaux, les légumineuses, les céréales sont des produits végétaux. Essayez d'avoir une alimentation qui est diversifiée. Ici, on parlait des Japonais. Faire un peu comme les Orientaux, que les viandes servent plutôt à donner du goût aux légumes que vous consommez. Quand vous consommez une soupe, il y a un petit peu de viande, il y a beaucoup de légumes, vous avez le goût de la viande, mais vous consommez beaucoup de légumes en même temps. Pensez soupe avec, on parfume les soupes avec des fonds de veau ou des fonds de bœuf ou des fonds d'agneau, mais on consomme beaucoup de légumes en faisant ça. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Végétaux, chaque assiette que vous consommez devrait être constituée, les recommandations des agences, et les deux tiers, les trois quarts de votre assiette devraient être constitués de produits végétaux. Sans devenir végétarien ou vegan, là, on s'entend qu'il y a des extrémistes là-dedans aussi. Là. C'est simplement d'être conscient du fait. De toute façon, d'un point de vue environnemental, on n'a pas la planète n'a pas la capacité de supporter une consommation de viande comme celle qu'on a dans les produits occidentaux. Fait que de toute façon, ça va être un exercice qu'on va avoir à faire comme humanité dans les prochaines années, parce que c'est impossible de supporter à long terme la consommation effrénée. C'est pas de la bannir, comme on dit, on le rappelle, c'est de réduire sa consommation de viande rouge.
Surtout vous dites 500 grammes, ça veut dire quoi? C'est du barbecue deux fois par semaine, mais pas cinq jours.
Ouais, c'est ça, c'est une livre. Comme je le dis souvent, c'est d'agrémenter. D'agrémenter. Regardez, quand vous consommez, quand vous allez dans un restaurant vietnamien, un restaurant chinois ou ainsi de suite, vous avez quelques morceaux de poulet, de bœuf, d'agneau, de porc sauté avec beaucoup de légumes, puis là, vous servez du bon goût de la viande grillée ou du bon goût de la viande sautée pour consommer plus de légumes. Servez-vous de la viande pour consommer plus de légumes, pour donner du goût à des légumes qui en ont moins dans des plats ou pour augmenter votre consommation de légumes. C'est un peu ça, les recommandations de la Société américaine du cancer et des agences de santé publique. On n'est pas dans la religion, c'est pas d'interdire, on n'est pas dans les interdits. C'est plus dans une réflexion sur la proportion relative de charcuterie, de viande rouge qu'on met dans nos assiettes par rapport à la consommation de végétaux.
C'est la viande qui doit accompagner les légumes et non plus l'inverse.
Exact. Une réflexion qui se fait, c'est comme je dis, sans sombrer dans l'intégrisme alimentaire puis dans l'obsession, là, c'est juste de dire, de faire cette réflexion-là, puis de, si vous prenez un plat qui a un petit peu plus de viande, d'essayer le repas d'après de consommer plus de légumes. C'est pas obligé d'être à chaque repas, mais globalement, c'est juste une prise de conscience qui doit pas devenir obsessionnelle, mais qui doit être simplement vous aider à faire des meilleurs choix quand vous êtes assis au restaurant, puis de choisir des plats qui ont des, j'ai donné l'exemple des cuisines orientales, mais les cuisines du Moyen-Orient, c'est la même chose. Quand vous arrivez avec les cuisines libanaises, avec les cuisines du Proche-Orient, les cuisines d'Afrique du Nord, le couscous, c'est majoritairement des végétaux avec un morceau de d'agneau ou de bœuf ou de poulet ou de poisson. C'est la même chose avec les médisés libanais, avec les entrées libanaises. Il y a beaucoup de légumes. Il y a de la purée d'aubergine, de la purée de pois chiches. Il y a des salades de tomates avec du feta. vous prenez un petit peu de poulet avec ça, puis vous êtes en affaire. C'est une réflexion qu'on doit faire. C'est pas une obsession. C'est une réflexion par rapport à nos comportements.
Écoutez, docteur, vous avez quasiment donné des recettes en plus, qu'on va pouvoir aller se mettre à préparer ça. Docteur Richard Béliveau, biochimiste et chroniqueur au Journal de Montréal. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.